Introduction à la lecture de l'Écriture sainte par Philippe, 15 novembre 1982, Rimes.
Il y a une question posée, j'y réponds. C'est par rapport à ce que nous avions dit précédemment, c'est-à-dire sur le second récit de la création. Qu'entendez-vous lorsque vous dites que la femme est médiatrice dans l'ordre de l'amour? Vous voyez comment je dis cela? À partir de ce texte, Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et c'est assez visible qu'on voit que Dieu donne à l'homme toutes les richesses matérielles qu'il veut. Dieu réalise un Éden pour lui. Et l'homme ne peut pas converser. L'homme ne peut pas, on dirait aujourd'hui, dialoguer. Il est seul. Alors il n'est pas dit qu'il s'ennuie, mais il est seul. Il ne s'ennuie pas parce qu'il peut nommer toute chose et qu'il peut connaître toute chose, mais il est seul. Et alors il ne peut pas y avoir cet épanouissement du cœur. Et c'est du reste que les pères de l'Église ont saisi quand ils ont vu comment Dieu voulait que avait réalisé la femme à partir de la côte de l'homme. Ils l'ont toujours vu comme une complémentarité dans l'ordre de l'amour. Alors, je dis médiatrice dans l'ordre de l'amour parce que justement, celle qui complète, celle qui est là pour épanouir le cœur de l'homme, je ne veux pas dire qu'elle est là pour l'homme, l'homme est pour elle aussi, c'est réciproque. Mais elle est là pour, de fait, permettre à l'homme de découvrir une compagne avec qui il peut dialoguer, avec qui il peut épanouir son cœur. Donc, médiatrice dans l'ordre de l'amour, ça ne veut pas dire du tout que l'amour que l'homme a pour elle vient du cœur de la femme. Ce serait faux. Médiatrice dans le sens que Dieu a voulu que la femme soit complémentaire, celle qui éveille et celle qui achève. Et je crois que c'est ces deux aspects-là qu'on devrait prendre. Celle qui éveille, et donc elle est celle qui va permettre à l'homme de saisir, d'aimer. Et celle qui achève, celle qui garde dans son cœur l'amour que l'homme a pour elle. Et qui permet à cet amour de prendre toute sa force et toute sa dimension. Alors, médiatrice, donc, dans l'ordre où elle est celle qui suscite et celle qui achève. Et on le voit d'autant mieux à partir du péché. Comme toujours, le démon nous aide à mieux comprendre ce que Dieu veut. Ce n'est pas à cause de ça qu'il existe, mais c'est un fait. Hein. C'est exactement comme au point de vue philosophique, Parménide affirme le non-être pour mieux connaître l'exigence de l'être. La négation nous aide toujours à exprimer ce que nous ne pouvons pas exprimer entièrement au point de vue positif. La négation est relative à l'affirmation à ce point de vue-là, pour expliciter quelque chose qui s'explique, qu'en premier lieu, on ne dit pas. Je dirais qu'ici, c'est la même chose, qu'on voit que dès que Ève pêche, immédiatement, elle devient médiatrice dans l'ordre de la tentation. Elle est entre le démon et l'homme. Et cette position nouvelle, qui fait que la femme est où? La dernière que Dieu crée, celle en qui Dieu met tout son trésor d'amour, puisque Dieu se repose après avoir créé la femme. Donc c'est significatif, ça. Et le repos de Dieu exprime bien cela. J'avais dit une fois faire une petite conférence, une petite causerie à Neuchâtel. C'était le pasteur Lebas qui m'avait demandé de parler du repos de Dieu. Je trouvais ça très beau comme sujet, je dirais. Le repos de Dieu. Alors j'ai répondu, je ne suis pas exégète. Je suis philosophe. Je me dis, c'est à cause de ça que je vous demande de parler du repos de Dieu. Parce que les exégètes, on sait que c'est toujours un peu étriqué. Alors, j'aime mieux demander à un philosophe de comprendre ce que c'est que le repos de Dieu tel qu'il est dit dans la Bible. Qu'est-ce qu'un philosophe peut dire là-dessus, sur le repos de Dieu? Alors, j'avais développé ce que je crois être significatif, parce que le repos de Dieu, c'est métaphorique. C'est évident que Dieu ne s'est pas reposé. Hein. Dieu n'a pas besoin de repos. Nous en avons besoin parce qu'on est fatigué. Alors, quand le potentiel de l'amour diminue, on a besoin de se reposer. Quand le potentiel de l'amour est très intense, on a moins besoin de se reposer parce que l'amour nous refait. Tandis qu'au contraire, quand l'amour est un peu plus dur, hein, on est tous là, on sait bien. Il suffit d'avoir une oraison extraordinaire pour plus besoin de se reposer, on se refait entièrement. Tandis que quand c'est dur, alors on sent davantage. On se dit, Dieu n'a pas besoin de se reposer, il est amour. Il n'y a pas de repos dans l'amour, c'est impossible. Il est amour. Alors, c'est dit métaphoriquement. Pour que nous comprenions que Dieu fait son chef-d'œuvre dans l'homme et la femme, mais que le chef-d'œuvre est achevé quand il réalise la femme. Il ne s'est pas reposé après la création de l'homme. Très significatif, ça. Il se repose après avoir créé la femme, pour bien nous faire comprendre que c'est en elle que, de fait, le mystère de la création va s'achever. C'est donc, comme le second récit, et ceci fait partie du second récit, comme le second récit de la création de la Genèse nous montre que la création est une œuvre d'amour et une œuvre de gratuité d'amour, c'est pour nous faire comprendre que cette gratuité d'amour s'achève dans la création de la femme. Et donc elle est bien celle en qui le poids de l'amour du Créateur va reposer d'une manière très particulière. Et ceci, c'est pour qu'elle devienne elle-même source d'amour pour Adam, pour qu'elle puisse susciter un amour en Adam. Pour que Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, pour que l'homme comprenne cette possibilité d'aimer. Alors, évidemment, nous pourrions aller plus loin en prenant le texte de Saint-Augustin et en disant ce récit regarde le mystère de Marie au pied de la croix. Alors, on se en face d'un sens plénier, comme disent les exégètes aujourd'hui, c'est-à-dire de regarder un premier récit dans la lumière d'un autre récit, c'est le père Braun qui dit ça. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ce sens plénier, qui consiste à mettre en parallèle deux textes. Saint-Augustin sait que tous les pères de l'Église ont fait, avec la liberté qu'ils avaient, puisque Saint-Augustin dit nous avons le droit de faire ça, puisqu'il y a un seul écrivain principal pour toute l'Écriture. Puisqu'il y a un seul écrivain principal pour toute l'Écriture, qui est l'Esprit Saint, nous avons parfaitement le droit de prendre un texte tout à fait primitif de la Genèse et de l'éclairer par un texte ultime qui nous est donné dans l'évangile de Saint-Jean. Et alors, dans l'évangile de Saint-Jean, nous voyons le nouvel Adam qui est plongé dans la torpeur et la nouvelle Ève qui naît à partir de la blessure du cœur. Alors, c'est la grande vision augustinienne, cela. Et c'est une très très belle vision, c'est évident. Je crois que c'est vraiment ce que l'Esprit Saint veut nous faire comprendre en dernier lieu. Il faut regarder le mystère de la création, mais le mystère de la création prend toute sa dimension dans le mystère de la recréation. Et c'est dans le mystère de la recréation que nous comprenons parfaitement et totalement ce que c'est que la création. Or, dans le mystère de la recréation, Marie est une place unique. Elle est la femme en qui création et recréation ne font qu'un dans le privilège de l'Immaculée Conception. Elle est celle qui est recréée tout en étant créée. Le privilège de l'Immaculée Conception, c'est bien cela en premier lieu. C'est de faire qu'il n'y a pas de dualité entre création et recréation. Pour nous faire comprendre que c'est le même Dieu et le même amour. C'est le même amour, évidemment, avec un caractère différent, mais c'est le même amour, parce que c'est le même Dieu qui crée et qui recrée. Qui crée et qui recrée à travers le Verbe. Puisque la création se fait par le Verbe, et que la recréation se fait par le Verbe, et que le chef-d'œuvre de la création et de la recréation, c'est Marie au pied de la croix. C'est le mystère de l'Immaculée Conception. Le mystère de l'Immaculée Conception nous donne toute la dimension du mystère de la croix. Elle est celle qui, vraiment, est le fruit par excellence du mystère de la croix. Alors, toute la dimension, en ce sens que c'est par là que nous comprenons que la recréation du mystère de la rédemption est beaucoup plus qu'une création. Nous avons toujours la tentation de considérer que la recréation, elle est seconde. Mais la recréation du mystère de la rédemption, c'est la grâce. Et le mystère de la grâce va plus loin que le mystère de la création, puisque la création est pour la grâce, et non pas l'inverse. Donc, on peut dire que par là, grâce au mystère de l'Immaculée Conception, je comprends comment la recréation, quand elle va jusqu'au bout, implique une nouvelle création. Une création absolument pure, la création de la femme. Et que la recréation prend ce qu'il y a d'ultime dans la création, la femme. Vous voyez, c'est là encore le lien si fort entre les deux. Puisque la recréation, c'est la reprise de ce moment ultime de la création, la femme, pour l'élever jusqu'au mystère de Dieu, dans ce mystère de l'Immaculée Conception. Et que Marie sera, dans l'ordre de la recréation et de la rédemption, la première de toutes les saintes, au-delà des chérubins et des séraphins, au-delà de tous les saints. Et donc ce mystère de la recréation qui assume la création met Marie au sommet, non seulement de la création, mais de la rédemption et de la recréation. Alors là, nous comprenons comment Marie est médiatrice de toute grâce. Le Père Kolb, c'est une des grandes intuitions du Père Kolb, de dire que le mystère de l'Immaculée Conception, c'est pour que Marie soit médiatrice de toute grâce. C'est les deux grands axes de toute la théologie du Père Kolb. Et ça, ce point de vue-là, c'est très très beau. C'est l'Immaculée Conception et Marie, médiatrice de toute grâce. La Marie mère, c'était le père Saint Jean, c'était Grignon de Montfort. Grignon de Montfort, lui, voit les deux maternités en une. C'est l'Apocalypse. Et le père Maximilien, lui, voit le fondement de la maternité et l'ultime moment de la maternité. Vous voyez ? Donc, il y a un regard qui va encore plus loin. Il enveloppe le mystère de la maternité par l'Immaculée Conception et par la maternité de toute grâce. Ça, c'est si beau dans le Père Maximilien. Il est dans le prolongement de Saint Grignon de Montfort. Et dans le prolongement de Saint Grignon de Montfort, il montre ce qu'il y a de fondamental et premier, l'Immaculée Conception, et ce qu'il y a d'ultime dans la maternité, médiation de toute grâce. Alors, il fallait qu'elle soit immaculée pour être digne mère de Jésus et pour être parfaitement la mère de Jean. Pour être parfaitement la mère de Jean, il fallait qu'elle soit la digne mère de Jésus. Et donc, il fallait le mystère de l'Immaculée Conception. Et donc, le mystère de l'Immaculée Conception, c'est pour que Marie soit médiatrice de toute grâce. Nous voyons donc que dans l'ordre de la rédemption, Marie est médiatrice de toute grâce. Elle est la médiatrice du mystère de la rédemption, co-rédemptrice, médiatrice de toute grâce. Si elle est médiatrice de toute grâce dans l'ordre de la rédemption, je comprends qu'elle nous fait comprendre comment la femme, puisqu'il y a une harmonie entre l'ordre de la recréation et l'ordre de la création, entre l'ordre de la grâce et l'ordre de la nature, je comprends alors dans cette lumière comment la femme est médiatrice naturellement d'amour, pour pouvoir être médiatrice de toutes les grâces. Vous voyez, le raisonnement théologique, hein, je crois que c'est très important de bien le saisir. Alors, Saint Augustin, Saint Grignon de Montfort et Saint Maximilien. Vous avez là trois saints qui ont eu un regard très très fort sur le mystère de Marie, sur le mystère de la femme. Et je crois que si nous les prenons les trois ensemble, nous pouvons comprendre comment, dans une vision de sagesse, nous devons affirmer que la femme est médiatrice dans l'ordre de l'amour. Alors, exégétiquement, vous voyez, c'est fondé à cause du repos de Dieu. Et tout repose sur ce repos de Dieu. Quand on dit ça à des protestants, c'est très bien. Ils comprennent à ce moment-là que le repos de Dieu doit nous faire comprendre la grandeur de la création de la femme. Et la grandeur de la création de la femme ne peut se comprendre que par le mystère de Marie. Et le mystère de Marie ne se comprend pleinement que dans le mystère de l'Immaculée Conception et de la médiation de toute grâce. Et alors à ce moment-là, vous rejoignez les deux extrêmes. C'est là où tout se tient, n'est-ce pas ? On voit très très bien. Et dès que vous ne voyez plus ça, alors vous n'avez plus que des aspects multiples, divers. Mais vous ne saisissez plus ce qui est affirmé. C'est affirmé quand même. Point de départ de l'écriture, terme de l'écriture. Il y a quand même un lien entre l'alpha et l'oméga. S'il y a un lien entre l'alpha et l'oméga, je dois être attentif à cet alpha, mais cet alpha ne peut se comprendre pleinement que dans la lumière de l'oméga. C'est-à-dire que dans la lumière du mystère de Marie. Et c'est très vrai que ce qui est montré dans le geste du chirurgien ne peut se comprendre que par le coup de lance. Alors je commence à mieux comprendre le geste du chirurgien, qui est le coup de lance. Et c'est vrai qu'il y a une harmonie entre les deux. Comme il y a une harmonie entre le point de vue du bois, qui est l'œuvre du menuisier, et puis l'œuvre du potier. Il y a des liens comme ça qui sont très importants pour nous à saisir, parce que ça nous fait saisir combien l'écriture a un seul auteur principal, l'Esprit Saint. Alors je continue. Nous avions vu comment le démon, le serpent, s'attaquait à la femme. Il la prend quand elle est seule, indépendamment de l'autorité. Le démon étant intelligent a une frousse intense de l'autorité. Je ne veux pas dire que tout être intelligent doit avoir la frousse intense de l'autorité. Mais je veux dire que quelqu'un qui est intelligent sait que l'autorité, c'est toujours quelque chose de difficile. N'est-ce pas ? Surtout quand on n'aime plus. Quand on n'aime plus, l'autorité est quelque chose d'insupportable. Au sens propre du mot, insupportable. Tandis que quand on aime, l'autorité est quelque chose de merveilleux, on la cherche pour pouvoir coopérer. Mais dès qu'on n'y a plus d'amour, alors on ne cherche plus le point de vue de l'autorité. On en a peur. Le démon a peur de l'autorité. Ça, il faut savoir. Quand on exerce l'autorité, il faut savoir que le démon a peur de l'autorité. C'est pour ça qu'il a peur du prêtre. Il a peur de l'autorité que le prêtre exerce. Il a peur de l'autorité d'un père de famille. Quand il est autour des enfants, il faut que le père de famille soit là pour justement exercer son autorité de père de famille, pour écarter le démon. Le démon a peur de l'autorité. Il regarde la femme qui n'a pas d'autorité. Elle n'est pas encore mère. La maternité lui donnera une certaine autorité. Elle n'est pas encore mère. Elle n'a pas d'autorité. Elle est fragile. Elle est la créature dernière, la plus fragile comme créature, celle qui a le plus conscience de sa fragilité, et c'est celle-là que le démon attaque. C'est celle-là que le démon essaie de détourner. C'est le détournement. Toute séduction est un détournement quand on se laisse prendre par la séduction. Et la séduction du démon, elle est d'une habileté extraordinaire, puisqu'il se sert de la parole de Dieu pour donner à la parole de Dieu une nouvelle signification. Une signification qui est en dehors de l'intention de Dieu. L'herméneutique du démon, c'est regarder la parole de Dieu indépendamment de l'intention de l'auteur principal de cette parole. Ce que nous n'avons pas le droit de faire, nous n'avons jamais le droit de séparer la parole de Dieu de sa source principale, qui est l'Esprit Saint. Nous n'avons jamais le droit de regarder la parole de Dieu uniquement liée à tel ou tel auteur, en disant « je vais connaître la psychologie de Jean, donc je vais connaître l'évangile de Jean ». Non. Je ne connaîtrais rien du tout. Quand il s'agit de la Genèse, c'est plus difficile de connaître la psychologie de l'auteur. Hein, puisqu'il s'agit de traditions tout à fait primitives, alors on ne peut pas. Là, on est perdu dans la nuit des temps, c'est sûr. Mais c'est un texte qui relève de traditions religieuses dont le Saint-Esprit se sert C'est pour ça que c'est un texte inspiré. Et pour comprendre qu'il est inspiré, on retrouve l'auteur principal, qui est l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui nous communique ce texte et qui nous le donne. Et donc, on n'a pas le droit de le séparer de son auteur principal. Le démon détourne l'intention profonde, ou plus exactement, il enlève l'intention profonde de Dieu pour faire comprendre quelque chose qui est diamétralement opposé. Comme si Dieu était rival. Autrement dit, la tentation du démon ne peut se comprendre que si on considère que Dieu est rival. Si Dieu n'est pas rival, je ne comprends pas. Et c'est ça qui est intéressant dans cette tentation. C'est que nous retrouvons le même problème aujourd'hui. Ce que le Saint-Père nous invite à regarder. Hein, que les tentations d'aujourd'hui qui existent à travers tous les athéismes, toutes les idéologies athées, implique toutes que Dieu est rival. Donc on retrouve la même présupposition que dans la première tentation. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est la finalité. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le démon plaide cette finalité de l'homme et de la femme qui est la connaissance du bien et du mal. Comme si c'était ça le propre de Dieu. Le propre de Dieu, c'est de ne pas connaître le bien et le mal. Le dernier livre du Père Miguel, Dieu ne connaît pas le mal. Va. Et c'est vrai, c'est là où on montre très bien que ce n'est pas le propre de Dieu de connaître le bien et le mal. Le propre de Dieu, c'est d'aimer. Et le démon, lui, fait de Dieu un démiurge. Donc une fausse idée de Dieu. Comme si le propre de Dieu, c'était la connaissance du bien et du mal. Non, la connaissance du bien et du mal est propre à l'homme. Parce que l'homme a l'affirmation et la négation. L'homme doit nier. L'homme ne peut pas tout le temps affirmer. Il doit nier en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, il doit faire le discernement entre le bien et le mal. Mais le discernement entre le bien et le mal, il ne le fait pas dans la désobéissance et dans l'orgueil. Le discernement entre le bien et le mal, il ne peut le faire que dans l'obéissance et l'amour. C'est à partir de l'amour et à partir de l'obéissance qu'il peut faire ce discernement du bien et du mal. Et son bonheur n'est pas la connaissance du bien et du mal. Son bonheur ne peut être que dans l'amour et l'obéissance. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable aux yeux, qu'il était cet arbre désirable pour acquérir l'intelligence. Alors voyez bien, la manière dont le démon est arrivé par sa séduction à persuader la femme. La femme, avant, regardait les fruits de l'arbre à travers son obéissance. C'est une connaissance affective qu'elle avait de l'arbre. Et ici, elle va avoir une nouvelle connaissance, une nouvelle paire de lunettes. Elle va avoir une nouvelle connaissance en se servant du regard du démon. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Vous voyez la subjectivité. Bon à manger. Ça, c'est le regard du démon. Donc elle est entrée pleinement dans cette connaturalité. Elle était complètement séduite. Et elle regarde les choses dans la lumière de Satan, dans la lumière du serpent. L'arbre était bon à manger, qu'il était agréable aux yeux, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir l'intelligence. Vous voyez qu'il y a les trois concupiscences. Les trois concupiscences sont présentes, hein. Bon à manger, concupiscence de la chair et du sang. Soudainement, elle a faim. Elle n'avait pas faim avant. Elle était contemplative. Ça ne veut pas dire que les contemplatifs n'ont pas faim, mais les contemplatifs n'ont pas faim immédiate. S'ils sont contemplatifs, un morceau de chocolat ne va pas les attirer tout de suite. Il fera un acte de contemplation. Et alors, le chocolat sera relativement plus loin. Tandis que dès qu'il n'y a plus la contemplation, le morceau de chocolat est immédiat. L'arbre était bon à manger, qu'il était agréable aux yeux. Ah, séduction. Tes yeux. Ça, c'est l'oprésive de l'ambition. Et que cet arbre désira pour acquérir l'intelligence. La concupiscence de la vie. C'est curieux, les trois. Hein, c'est une projection, c'est évident que c'est une projection. Mais c'est intéressant de voir ici, tout de suite, que à l'état dispositif, nous avons ce regard de la femme. Et la manière dont les vertus théologales sont immédiatement attaquées, abîmées, par le conditionnement des vertus théologales. C'est vrai, les trois concupiscences qui sont la conséquence du péché, nous les trouvons ici, au point de départ, comme ce qui conduit, mettez ça en parallèle avec la première épître de Saint Jean. Et dans la première épître de Saint Jean, vous voyez bien, chapitre 2, où Saint Jean nous rappelle les trois concupiscences. Elle prit de son fruit et mangea. Tout de suite. L'exécution est facile. Hein? Voyez, immédiatement, c'est là, elle glisse. Elle en donna aussi à son mari, alors elle devient médiatrice. Elle ne l'a pas regardé. Hein? Voyez, cette fausse annonciation. Cette annonciation qui est l'anti-annonciation. Hein? C'est vrai, c'est l'anti-annonciation comparativement à l'annonciation faite à Marie. Ève était là seule, et elle restait seule alors qu'elle aurait pu demander conseil. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Au moment de la tentation, elle ne s'occupe pas de son mari. Mais au moment de l'exécution, que le fruit est bon, vous voyez, son cœur est devenu tout à fait bon, alors elle en donne à son mari. Mais quand il s'agissait de lutter contre le démon, elle ne faisait aucune attention à la présence de son mari. C'est extraordinaire ça aussi, hein. Et c'est ce qu'on voit, hein. Qui était avec elle, et il mangea. Mais le démon l'a tellement séduite qu'elle n'a plus fait attention à son mari. Elle était entièrement prise par la séduction. Alors se dessillèrent leurs yeux à tous deux. Ils connurent qu'ils étaient nus. Alors c'est la première conséquence du péché. Nous avions vu la première nudité, et nous voyons ici la seconde nudité. Curieux que l'Écriture montre ces deux nudités. La première nudité avant la faute. C'est une nudité dans laquelle il n'y a pas de honte. C'est une nudité qui explique la simplicité du cœur d'Adam et Ève. C'est la simplicité. Dieu a créé en eux une simplicité d'amour et de cœur qui fait que la nudité de l'un par rapport à l'autre ne donnait aucune honte. Pourquoi ? Parce que leur sensibilité, leur imagination était tout entière au service de leur amour spirituel. Si notre sensibilité, si notre imagination était tout entière prise par notre cœur spirituel, la nudité ne nous ferait pas honte. Elle ne nous dérangerait pas parce que notre cœur est simple et aime ce qu'il y a d'essentiel dans la personne de l'autre, son cœur, et son cœur profond. Donc la première nudité est le symbolisme de la simplicité de leur cœur. Ici, la seconde nudité est le symbolisme de la complicité de leur cœur. C'est extraordinaire, ça, c'est très beau pour comprendre le symbolisme, hein. La nudité, oui, il faut savoir dans quelle ou telle circonstance. La nudité en soi ne signifie rien. Mais la nudité enveloppée d'amour exprime la simplicité. Et la nudité après le péché, ainsi se dessillèrent leurs yeux à tous deux, ils connurent qu'ils étaient nus. Et cousant des feuilles de figuier, ils s'en firent des pannes. On voit très bien. Ils ne peuvent pas supporter cette nudité. Pourquoi ? Parce que, justement, à partir de ce moment-là, l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre n'a plus la même intensité. Ils sont complices. Et s'ils sont complices, ils se regardent en premier lieu, sans avoir cette limpidité du regard qui consiste à regarder l'autre. La première conséquence du péché, c'est de se regarder. C'est ça la première conséquence du péché, c'est se regarder. C'est d'user de la connaissance pour cette espèce d'introspection. Vous voyez comme le point de vue du péché, le point de vue psychologique sont contemporains. Tout de suite. Le point de vue psychologique, c'est de se regarder soi-même. C'est l'introspection. C'est la conséquence immédiate du péché. Alors on regarde sa nudité. Et alors on essaie par tous les moyens de parer à cette nudité. Et on pare à cette nudité d'une façon extérieure. Et non plus d'une façon intérieure. Quand l'amour est là, tout se voit de l'intérieur. Quand l'amour n'est plus là, alors à ce moment-là, tout se voit de l'extérieur. Vous savez bien. Et non plus d'une façon intérieure. Quand l'amour est là, tout se voit de l'intérieur. Quand l'amour n'est plus là, alors à ce moment-là, tout se voit de l'extérieur. Vous savez bien, c'est dit dans Saint Jean, hein? L'Esprit Saint que le monde, le paraclet que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas. Donc il ne peut pas le connaître parce qu'il ne le voit pas. On regarde les choses de l'extérieur. Quand on aime, on regarde de l'intérieur. Quand on aime, on ne peut plus juger selon les apparences. Quand vous jugez selon les apparences, ça prouve que vous n'aimez pas assez. Alors vous voyez la nudité des autres. Hein? Tandis que quand vous aimez profondément, vous ne la voyez plus. Parce que vous aimez. Alors votre regard est un regard intérieur. Alors vous savez bien qu'il y a tel ou tel défaut. Vous savez bien qu'il y a telle ou telle faille. Mais vous ne vous arrêtez pas à ça. Parce que vous vous arrêtez aux bonnes intentions. Vous vous arrêtez à la limpidité du cœur. Alors, donc, se dessillèrent leurs yeux à tous deux, ils connurent qu'ils étaient nus, et cousant des feuilles de figuier, ils se firent des pagnes. Ils entendirent le bruit des pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin. Ça, c'est merveilleux encore comme anthropomorphisme, pas ? C'est extraordinaire, ça, c'est un langage métaphorique merveilleux. On voit très bien le soir, vous comprenez, le soir, Dieu faisait sa petite promenade de propriétaire. Hein. Sa petite promenade de propriétaire tous les soirs. Alors il voyait si ceux qu'il avait invités dans son lieu et qui habitaient là étaient bien sages, n'est-ce pas ? Il les voyait, rendait visite tous les soirs. On voyait très bien les mœurs merveilleuses qu'il devait y avoir. Ils entendirent le bruit des pas d'y avait. Alors Dieu marchait avec plus ou moins de douceur. Hein. Quand ça dépendait. Quand Dieu était reçu par Adam et Ève, Dieu avançait avec une extraordinaire douceur. Et ils pouvaient venir tout de suite. Ils attiraient Dieu. Et Dieu les attirait. Tandis qu'ici, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ils entendirent le bruit des pas d'y avait Dieu, qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Et ils se cachèrent, l'homme et la femme, de devant y avait Dieu. Parmi les arbres du jardin. Seconde conséquence du péché, s'il n'y a plus de véritable dialogue, parce qu'on se regarde avant et qu'on voit sa nudité, il n'y a plus d'intimité avec Dieu. La faute supprime. Vous voyez, c'est très curieux qu'il ait montré en premier lieu la brisure de l'amour d'amitié. Parce que le premier commandement qui existait, le seul commandement qui existait dans le paradis terrestre, c'était justement « aimez-vous les uns les autres ». Ayez entre vous cette simplicité absolue de l'amour. Et donc la première chose que le péché fait, c'est de briser la confiance, d'empêcher de se regarder dans cette simplicité. Alors on se regarde, on voit qu'on est nu. Il y a une rivalité entre l'homme et la femme, comme conséquence immédiate du péché. Seconde conséquence, c'est à l'égard de Dieu. À l'égard de Dieu, il y a une brisure. À la place d'avoir cette totale confiance du contemplatif à l'égard de Dieu, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont une conscience qui n'est plus libre. Ils ont désobéi. C'est très curieux, hein, là encore, de regarder la conséquence du péché du côté de la charité fraternelle et la conséquence du péché du côté de Dieu. Le péché qui brise la charité fraternelle, Ève qui était faite pour être médiatrice dans l'ordre de l'amour, est devenue médiatrice dans l'ordre du péché. Et donc elle ne peut plus regarder Adam. C'est bien évident, quand on a mis l'autre dans une situation impossible, on est gêné devant lui. Et elle ne peut plus. Et Adam de même, parce qu'il a cédé. Et puis à l'égard de Dieu, il y a quelque chose d'analogue. Ils se cachèrent, l'homme et sa femme, de devant Yahvé Dieu, parmi les arbres du jardin. Ils se retrouvent à deux, dans cet état de non-prière et de non-adoration, dans cet état d'opposition vis-à-vis de Dieu. Ils sont complices. Alors vis-à-vis de Dieu, ils se retrouvent dans l'unité, mais complices. Ils sont l'un à côté de l'autre. Tandis que quand ils étaient l'un face de l'autre, ils ne se rencontraient plus. Vous voyez, la conséquence du péché est différente, comme brisure de relation. Elle brise la relation entre Adam et Ève. Elle brise la relation d'Adam et Ève avec Dieu. Yahvé Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Alors Dieu est obligé d'appeler, encore un autre. Dieu est obligé d'appeler parce que l'homme est incapable de découvrir ou de rester en présence silencieuse de Dieu. Quand l'homme aime Dieu, il reste en présence silencieuse de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'appeler. Ça aussi, c'est très mystérieux et c'est intéressant à voir comme conséquence du péché. L'attitude de Dieu n'est plus la même. L'attitude de Dieu avant la faute est une attitude de familiarité. Et la familiarité nous est bien montrée, puisque il vient, Dieu se promène. Tandis qu'au contraire, ici, il n'y a plus cette attitude de familiarité. Et Dieu est obligé d'appeler. Quand on est en profonde familiarité avec quelqu'un, on n'a pas besoin de l'appeler. On appelle quelqu'un qui est lointain. Où es-tu ? Il dit, j'ai entendu le bruit de tes pas dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Et je me suis caché. Alors on se sert de la nudité pour expliquer la peur à l'égard de Dieu. Alors vous voyez que cette nudité ici est encore quelque chose de nouveau. C'est pouvoir faire comprendre qu'à la place d'être dans une attitude d'adoration vis-à-vis de Dieu, dès que Dieu est présent, on adore Dieu. Non, on se replie sur soi. C'est encore un repliement sur soi. Un double repliement. Le repliement à l'égard de l'autre, c'est-à-dire à l'égard d'Ève, et un repliement à l'égard de Dieu. Ça va très loin, ce repliement. Vous voyez, parce que l'appétit naturel que nous avons de Dieu, c'est l'appétit le plus foncier, l'appétit religieux. C'est l'appétit qui nous saisit dans ce qu'il y a de plus nous-mêmes. Eh bien, le péché brise cet appétit et nous empêche d'avoir ce regard simple et direct vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il dit, qui t'a appris que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ? Dieu qui sait tout. Mais Dieu l'a interroge pour que Adam avoue. Et quand on avoue sa faute, vous savez bien, en face de Dieu, elle est déjà pardonnée. Mais c'est pas commode d'avouer sa faute, hein. C'est pas commode d'avouer sa faute face à Dieu. Et on voit très bien ici, ce qui nous montre bien que l'homme n'est pas arrivé tout de suite au pardon. Hein. Qui t'a appris que tu étais nu ? C'est aussi curieux, hein, que cette nudité pour coder Adam à l'égard d'Ève et à l'égard de lui-même. Cette nudité n'est pas selon l'attitude première de la justice originelle. C'est comme une conséquence de la faute. Ce que je vous disais tout à l'heure, cette nudité qui est le repliement sur soi. Je crois que c'est bien ça qu'il faut le comprendre ici. C'est le repliement sur soi. Cette attitude qui fait que, à la place de regarder d'abord l'autre, on se regarde en premier lieu. Parce qu'il n'y a plus d'amour. Alors évidemment, ça irait très loin au point de vue de la connaissance. Ça irait très loin, parce que ça nous montrerait que c'est justement à partir de la faute que nous pouvons saisir comment il y a un repliement de l'intelligence sur elle-même et qui fait que l'intelligence, à la place de regarder d'abord l'autre, se regarde. Je crois qu'on peut le dire, ça. C'est impliqué dans ce qui nous est montré ici. Alors c'est intéressant parce que ça donne toute une grande lumière, vous voyez, sur le subjectivisme. La priorité de se regarder plutôt que de regarder l'autre. Qui t'a appris que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'ai ordonné de ne pas manger? Il y a eu une brisure pour qu'il soit dans cette attitude-là. L'homme n'est plus comme avant. L'homme dit, c'est la femme qui t'a placé près de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. L'homme est incapable de prendre la responsabilité de son acte. Ça fait la troisième conséquence du péché, hein, si vous suivez les diverses conséquences du péché. L'homme devient incapable de prendre la responsabilité de son acte. Et donc, dans sa volonté, il y a quelque chose qui a été abîmé. Normalement, l'homme est conscient de ses actes et il est responsable de ses actes. Eh bien là, non. Tout de suite, il regarde l'autre. C'est la femme que tu as placée près de moi. Et puis on a l'air de faire reposer la responsabilité sur Dieu. Hein. C'est toujours un peu comme ça, du reste. C'est la femme que tu as placée près de moi. Dieu l'a fait par amour. Dieu l'a fait par amour. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a placé la femme à côté de lui. Et voilà que l'homme, n'aimant plus, va considérer que ce geste d'amour de Dieu, eh bien Dieu n'aurait pas dû le faire. C'est la femme que tu as placée près de moi. Près de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Il avait dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme dit, c'est le serpent qui m'a dupé et j'ai mangé. Donc nous connaissons bien ça, l'impossibilité de prendre la responsabilité soi-même. Alors à ce moment-là, la conséquence de la faute, c'est de rejeter sa faute sur le voisin. Il y a toujours des complices, toujours. C'est ta faute, c'est pas la mienne. Et on voit ça en premier lieu. Hein. Oui, là on voit la lâcheté. La conséquence du péché, c'est la brisure de ce sens que nous devrions avoir de nos responsabilités. Alors, là, c'est l'inverse, c'est la lâcheté. Et la lâcheté consiste toujours, non pas à faire passer l'autre devant au point de vue de l'amour, comme l'amour fait toujours passer l'autre devant, tandis que la lâcheté fait passer l'autre devant au point de vue de la responsabilité. Alors, Adam fait passer la femme, ça c'est extraordinaire. Là, il est poli, vous voyez, hein, il la laisse passer devant, hein, en disant que c'est bien elle qui est complice. Et Ève fait passer le démon. Et la femme dit, c'est le serpent qui m'a dupé et j'ai mangé. Il avait dit au serpent, alors Dieu respecte, ça c'est la miséricorde de Dieu. Dieu reconnaît cette faiblesse. Et Dieu va commencer à punir le serpent, puis la femme, puis l'homme. Il y a un ordre dans l'ordre de la punition. Et cet ordre voulu provient d'Adam et d'Ève. Il avait dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Sur ton ventre tu marcheras et poussière tu mangeras tous les jours de ta vie.
je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te visera à la tête et toi tu la viseras au talon. Alors c'est très important de comprendre cette malédiction de Dieu sur le démon. Et de la comprendre selon cette modalité très 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 forte, cette modalité symbolique à l'égard du serpent. Parce que tu as fait cela, donc Jésus nous fait comprendre que le démon va être puni d'une manière particulière parce qu'il a tenté la femme. Ce n'est pas la punition de Dieu à l'égard du démon, à l'égard de sa première faute originelle. C'est à l'égard du tentateur, comme tentateur. Il faut bien distinguer. Et ce tentateur sera puni parce que tu as fait cela, donc parce que tu as tenté la femme, parce que tu as osé t'approcher d'elle et la tenter de cette manière-là, parce que tu as menti. La première faute n'implique pas un mensonge, implique l'orgueil. Tandis qu'ici, c'est un mensonge. Celui qui ment depuis toujours. Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Donc il y a une malédiction à l'égard des vivants. À l'égard de tous les vivants. C'est curieux cette malédiction à l'égard des vivants. Alors qu'est-ce que ça représente exactement ? Par rapport au tentateur, il est maudit. Lui qui est vivant, lui qui est plus parfaitement vivant que les autres, il est maudit par rapport à tous les autres vivants. Les vivants qui ici sont de fait les animaux.